Très bien, ben, nous allons entamer notre session finale et conclusive en remerciant tous les intervenants de la journée, mais nous sommes vendredi soir et il y a un certain nombre de personnes qui ont des trains, donc je pense qu'il est temps maintenant de conclure. Néanmoins, nous allons prendre le temps de conclure parce que nous avons deux personnalités très engagées dans le développement durable citoyen européen. Et d'autre part, nous avons deux regards tout à fait, je crois, complémentaires et intéressants. Alors, avant de donner quelques perspectives, mais très rapides au nom du comité 21, je voudrais d'abord remercier M. Peter Schmidt, qui est président de l'Observatoire européen du développement durable, c'est-à-dire en fait une émanation du Conseil économique et social européen. Et puis mon ami Roland Ries, que je remercie beaucoup de nous avoir rejoints, maire de Strasbourg, Strasbourg, virgule, capitale européenne, trois points de suspension, et comme disait le général de Gaulle, qui entend le rester. C'est ça, voilà. Et donc, Peter, je voudrais d'abord vous demander quel a été votre regard, puisque vous êtes un observateur, voilà, présider un observatoire, sur ce qui s'est dit dans la journée. Et surtout, je voudrais vous demander si, étant donné les conditions économiques, en plus, de l'Europe en ce moment, vous inclinez plutôt, pourtant je n'aime pas beaucoup ces mots, mais je vais quand même les dire, aux personnes qui sont optimistes pour le destin européen ou aux personnes qui mettent quelques doutes. Et même si vous ne parlez pas de ces doutes parce que vous êtes très engagé, je vous demanderai quand même de nous les confier.
Merci Bettina. Les deux, optimiste et pessimiste. Mon directeur m'a dit que je dois parler en français pour améliorer mon français, mais je vais changer en anglais, hein, si vous permet. Hein. So it's better that I speak.
Bon, c'est mieux pour moi de m'exprimer en anglais parce que mon anglais est mieux développé que mon français. J'aimerais mieux m'exprimer en bavarois, mais ce n'est pas prévu. Je pense que vous pourriez me dire, mesdames, messieurs les interprètes, si vous pouvez le faire. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Avant de parler de mon aperçu, je vais commencer par les aspects pessimistes. En tant que syndicaliste, c'est mon premier message. Je pense que vous allez comprendre mes préoccupations. En tant que syndicaliste, j'ai appris qu'il y a toujours une solution, toujours une sortie. Je suis président de l'Observatoire européen du développement durable, du CES, mais je suis syndicaliste d'un syndicat alimentaire. Donc je suis ravie d'être ici à Paris parce que c'est une ville connue pour sa bonne chère. Mais en tant que syndicaliste, permettez-moi, Bettina, de reprendre ce que vous avez dit ce matin. Vous avez parlé du radicalisme. Et permettez-moi de faire un peu l'avocat du diable. Dasha n'est pas la seule à oser s'exprimer. À la lumière de ce que nous avons entendu aujourd'hui, et quand on parle des ODD, de l'agenda 2030 et du développement durable en tant que tel, il ne faut pas oublier que nous sommes confrontés à un obstacle. Ce n'est pas le programme. Le problème est qu'il y a des obstacles à surmonter en ce qui concerne la mise en œuvre des ODD. Et c'est l'économie. Nous avons un modèle économique actuellement qui constitue le plus grand problème. Avec ce modèle, nous n'allons jamais arriver au développement durable. Le modèle économique que nous avons nous mène à la situation dans laquelle nous sommes, avec une désintégration de ce que nous voyons sur la planète Terre, la destruction des modèles sociaux est le résultat des 30 dernières années de politique néolibérale. Et c'est cela le problème. Si nous n'essayons pas de résoudre le problème de cet obstacle, si on essaie juste de trouver quelques remèdes par-ci, par-là, nous n'allons jamais arriver à un véritable développement durable. Il faut en tenir compte au cœur de la discussion et nous devons nous concentrer là-dessus, nous focaliser là-dessus. Quelles sont les deux choses à changer d'urgence? Il faut revoir la définition de notre modèle de croissance actuel. Si nous maintenons la définition où la croissance est tout dans l'économie, nous allons détruire notre planète. Deuxième chose, il faut trouver une nouvelle définition de la compétitivité. Ce que nous avons actuellement est lié uniquement à la quantité et au prix. Le moins cher, l'entreprise la moins chère est sûrement la meilleure sur le marché. Donc, cela veut dire qu'il y a un nivellement vers le bas, il y a une exclusion de certaines parties de la société. Donc, on a parlé de tous les phénomènes qui sont fondés sur ces inégalités qui découlent notre modèle économique. Il y a de plus en plus de richesses dont j'ai de moins en moins de membres de la population. Je viens du secteur alimentaire. Nous payons 60 milliards d'euros chaque année pour réduire la gravité de la situation des agriculteurs. 60 milliards. Et en même temps, et je suis responsable des grandes multinationales, surtout la plus grande concernant l'agroalimentaire. Vous savez très bien de qui je parle. Vous savez ce qu'ils ont en ce qui concerne la rentabilité? Nous payons 60 milliards pour les agriculteurs chaque année. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut les soutenir. Mais en même temps, il y a des entreprises qui ont comme bénéfice 20 % du chiffre d'affaires. Alors, on parle de développement durable. Est-ce durable? Est-ce qu'on peut accepter dans la durée une telle situation où il y a quelques entreprises ont 20 % et personne ne se plaint, personne ne critique? On dit il faut aborder tel problème, tel autre problème. Mais c'est ça le vrai problème. C'est le problème de la distribution de la richesse. Il faut en parler. Donc, il faut changer le modèle économique. Je vais vous raconter une petite histoire. Nous avons eu récemment une réunion du comité d'entreprise. J'en suis président. Nous avons parlé du développement durable. Pendant la pause déjeuner, le PDG de la société en question, et d'ailleurs, j'ai regardé la présentation de M. Moisan, très intéressant. Nous avons constaté les contradictions. Les PDG disent il faut changer. Il faut changer le comportement, il faut changer le monde. C'était très intéressant de voir, lors de ce sondage, qu'ils ont donné ces réponses. Il y a deux jours, le type me dit qu'il a 5 enfants. Il a dit, bon, il va falloir changer notre mode de vie, on a besoin de 3 planètes pour continuer à faire ce qu'on fait. Et je l'ai regardé, je dis, OK, d'accord. Et il me dit, qu'est-ce qu'on va faire lorsque les grands distributeurs nous demandent de faire baisser les prix? Et je dis, on peut rien faire, en fait, parce que le modèle est erroné. Et après 5 minutes, il me dit, il me regarde, il me dit, moi, je place ma confiance dans mes enfants, dans mes 5 enfants. Il en a la responsabilité, il en a le pouvoir, il pourrait changer toute l'entreprise, il me dit, bon, il attend que ses enfants grandissent avant de changer le monde.
Je suis désolé, mais nous sommes dans une pleine contradiction. Et tant que nous ne résoudrons pas le problème que pose cette contradiction, nous pourrons parler pendant des jours et des semaines à longueur de journée. Mais la seule manière de vraiment changer les choses, c'est de changer le mode de production de l'industrie, soutenir la jeunesse, se joindre à ce mouvement. Moi, je vous dis que sans des exigences claires et radicales sans des actions claires et radicales, les politiques et les dirigeants d'entreprise ne vont pas du tout changer leur comportement. Et tant que nous n'expliquerons pas aux gens que la seule manière de survivre, c'est de changer notre modèle économique, rien ne va changer. Donc pour moi, c'est ça la conclusion qui doit sortir de la réunion d'aujourd'hui, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut que nous fassions notre travail, il faut que nous allions à l'extérieur et tentons de changer les choses. Il faut bien sûr tenter d'avoir un impact sur la Commission européenne, mais bon, soyons honnêtes, quand vous êtes à Bruxelles et quand vous discutez de réglementation, par exemple, les gens se cachent sous la table, ils font l'autruche, et hop, c'est la croix et l'ail, et on vous prend pour un vampire. Parce qu'avec le modèle néolibéral, les réglementations ne sont tout simplement pas une partie de l'équation. Nous avons besoin de réglementations fortes. Ce n'est qu'en réglementant les marchés que nous allons faire quelque chose. Et enfin, pour parler de la partie optimiste, en tant que syndicaliste, je sais que nous pouvons changer le monde. Il y a 150 ans, les gens travaillaient 16 à 20 heures par jour dans des conditions terribles. Et maintenant, nous sommes ici ensemble parce que des gens se sont battus, ils ont fait grève et ils ont dit « nous avons des droits fondamentaux ». Ils ont dit « nous avons droit de vivre comme nous le voulons, dans un monde tolérant » et ils ont changé le monde. Mais les néolibéraux, ils ont changé le monde eux aussi. Mais je pense que nous pouvons récupérer ce monde que nous voulons et nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Voilà ma conclusion.
Moi, je propose que le président de l'Observatoire européen du développement durable prenne la présidence de la Banque centrale européenne. Avec la bénédiction du maire de Strasbourg.
Acquise.
Alors, nous avons vu effectivement le rôle de l'économie et de la mauvaise économie qui malheureusement, vient de nous dire Peter, fonde la lenteur justement de la mise en œuvre des ODD. Est-ce que les villes, les grandes villes européennes peuvent relever le défi? Et est-ce que c'est avec justement des acteurs non étatiques, et Dieu sait si tu es actif dans tout ce mouvement, que nous pourrons quand même refonder l'Europe?
Alors, je ne sais pas trop.
T'appuies là.
Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, chère Bettina, d'abord de m'avoir invité à faire la conclusion d'un forum auquel je n'ai assisté que partiellement. Je vais donc me libérer un petit peu de cette obligation dans laquelle tu m'as introduit pour donner quelques éléments sur le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui, je voudrais le dire en guise d'introduction, est formidable dans les deux sens qu'a l'adjectif formidable en français.
Formi et formidable.
Ça, c'est une chanson, ça. Formidable, à l'origine, signifie, du latin formido, formidinis, qu'il faut craindre, qu'il suscite l'angoisse. Mais le glissement de sens a abouti à formidable. Le Racing Club de Strasbourg a gagné contre Reims. C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est intéressant.
Tu as l'exemple, évidemment, au hasard.
Arrêtez, oui. Donc, formidable, ça veut dire que cette époque est étonnante, donc intéressante, et je partage largement les observations qui ont été faites par le président de l'Observatoire européen du développement durable. Je suis tout à fait d'accord avec lui, je vais revenir là-dessus. Mais c'est intéressant, mais c'est angoissant, puisqu'on est sur des sentiers non battus, sur des chemins non battus, et que les vieux chemins, on peut dire les vieilles autoroutes, nous conduisent droit dans l'impasse. C'est ce que j'ai retenu de l'exposé de M. Schmitt. Donc, je suis heureux malgré tout, de vivre cette époque-là. Parce que c'est une époque de mutation, et comme toutes les époques de mutation, il y a des risques. On sait bien que l'Europe aujourd'hui ne va pas bien. On sait bien qu'il y a un développement des populismes en Europe, des nationalismes, de l'euroscepticisme, qu'on ne sait pas, du terrorisme et d'autres avatars de la désespérance, on va dire. Donc, la première chose que je voudrais dire ici, c'est citer Gramsci, ce qui n'est pas ma tasse de thé, si je puis dire. Mais Gramsci a dit une phrase qui me paraît résumer la situation d'aujourd'hui. Il dit qu'au pessimisme de l'analyse, et Dieu sait qu'on a entendu du pessimisme tout à l'heure à cette table, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Je pense que ça ne sert à rien de se lamenter et de terminer les discours en disant « tout va mal, ça ne va pas du tout », etc. Vous l'avez dit, M. Schmitt, comparons quand même les situations de nos grands-parents à la nôtre d'aujourd'hui. Les journées de 12 heures, 15 heures de travail, on a quand même, de ce point de vue-là, progressé. Alors, c'est vrai qu'il y a des phénomènes inattendus qui se passent aujourd'hui. Les gilets jaunes en France en sont un. Qui eût pensé, en tout cas pas moi, que en si peu de temps puisse naître un mouvement de cette nature-là et qu'il se développe dans la contestation, dans la durée. En fait, il y a deux choses dans ce mouvement, de mon point de vue. Il y a d'abord un nouveau modus operandi, à la différence des grèves de jadis, où à la fin du mois, on retirait de l'argent à ceux qui faisaient grève. Ici, il y a des manifestations qui se produisent samedi après samedi, même si ça décline aujourd'hui, et que ça se radicalise quand même. On manifeste sur les ronds-points, on est entre amis, on ne perd pas d'argent à la fin du mois, on fait des merguez, éventuellement, on a toutes les télévisions et les radios qui viennent vous interviewer, qu'est-ce que vous pensez de la marche du monde et de Saturne qui va rencontrer Vénus, etc. C'est pas forcément cette question-là qui est posée, mais c'est tout bénéfice. Ça peut durer très longtemps, et ça dure très longtemps. Moi, au début, je pensais que ça durerait un week-end.
C'est fun.
Ça durerait un week-end, c'est aller au-delà du week-end. Ensuite, je me suis dit, ça va durer jusqu'à Noël, après, on va être en plein hiver, ça ne va pas continuer, c'est pas possible. Ben, ça continue encore aujourd'hui. Et un mouvement insaisissable. Si on devait, comme certains le réclament, faire un référendum, mais un référendum sur quoi ? Sur quoi ? Est-ce que c'est sur les impôts qui sont trop élevés ? Est-ce que c'est sur les institutions ? Est-ce que c'est sur la destitution du président de la République ? Enfin, toutes ces idées ou ces revendications qui apparaissent, disparaissent, ressurgissent, sans qu'il y ait d'ailleurs de porte-parole clairement identifiée de tout ce mouvement. Bon, c'est vrai qu'il se passe des choses inouïes au sens premier du terme. Et dont l'issue est imprévisible. La deuxième chose que je voudrais dire, et là je rejoins M. Schmitt, sur le modèle de développement dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, mais dans lequel nous ne pouvons pas rester, parce qu'il est antinomique par rapport à l'environnement et par rapport au développement durable. On est de plus en plus dans la contradiction. Alors, il faut faire du développement durable, protection de l'environnement, etc. C'est facile à dire. Le vrai problème, il est comment on passe de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans une autre situation qui est souhaitable et qu'il faudrait d'ailleurs définir plus précisément. J'étais avec mon conseiller diplomatique qui est dans la salle, Julien Capone, récemment en Mongolie intérieure, Mongolie chinoise. Et on nous a, c'était d'ailleurs organisé par les Nations Unies, on nous a montré une ville idyllique, enfin à peu près idyllique. Elle était à la porte du désert de Gobi, c'est la ville d'Ordos. Ordos est une ville sortie du désert, in the middle of nowhere. Mais belles avenues, des architectes occidentaux qui ont fait de très, très beaux bâtiments, population de 250 000 habitants, ils en espéraient davantage, mais ça doit coûter trop cher, je suppose. Et puis ça a été de toute façon financé par fonds publics pour l'essentiel. C'est très bien, c'est une vitrine. Mais la question, elle n'est pas là. Des vitrines, on sait en faire. Comment on passe de Shanghai, de Pékin, de New York ou de l'État existant à ce monde-là? C'est ça la vraie difficulté. Est-ce qu'on fait exploser l'ancien système? Je ne crois pas. L'idée de révolution, à mon avis, sauf peut-être chez Gramsci, elle est dépassée. Mais comment on passe d'un modèle de développement économique qui nous conduit dans une impasse à un autre modèle? Et donc, comment on gère autrement nos villes? Comment on gère autrement nos pays? Comment on gère autrement l'Europe? Comment on gère autrement les États-Unis? Enfin, il y a beaucoup à faire sur le plan institutionnel et sur le plan du modèle de développement qui est le nôtre. Ça, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder. Il y en a un troisième qui est collatéral à cela. Qui peut faire? Qui doit faire? Est-ce qu'on va continuer à réserver l'action internationale aux seuls États ou ensemble d'États qui discutent entre eux, et qui sont en désaccord ou en accord avec des alliances parfois un peu surprenantes. Est-ce qu'en d'autres termes, l'action internationale sera uniquement orientée sur le plan diplomatique, ce qui a été longtemps le cas? Ou bien est-ce qu'on va enfin comprendre que si on veut changer les choses, il faut partir de l'échelon le plus humble, le plus régional, qui est en rapport avec la vie quotidienne des citoyens? Moi, je suis heureux de l'accord de Paris, et l'un des principaux acquis de cet accord de Paris, c'est l'implication des collectivités territoriales dans les changements nécessaires. Et cela rejoint aussi les objectifs du développement durable, adoptés, je rappelle, en 2015 par les Nations Unies à la quasi-unanimité, et qu'il faut aujourd'hui, dans l'esprit même des Nations Unies, territorialiser, donc donner la possibilité et même le devoir aux collectivités locales de les mettre en œuvre. C'est ça, territorialiser. C'est les intégrer dans les politiques locales, c'est ce qu'on essaye de faire à Strasbourg. C'est ce qu'on essaye de faire à Strasbourg, et je vais terminer là-dessus parce que cette ville est celle que je connais le moins mal parmi les villes françaises et évidemment européennes. Nous avons, je dirais, commencé à opérer le changement au début des années 90, et on a commencé par les questions de mobilité, de transport. J'étais le premier adjoint de Mme Trautmann, qui était maire de Strasbourg à cette époque. Et je ne regrette pas d'avoir fait cela. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Il ne suffit pas de s'efforcer de sortir du tout automobile et de privilégier les transports publics, le vélo, la marche à pied et maintenant les trottinettes. Il faut aller plus loin. Quel modèle de développement urbain allons-nous promouvoir? Est-ce qu'on va continuer à laisser la ville se répandre sur la campagne, proliférer de façon cancéreuse, anarchique, ou est-ce qu'on va essayer d'avoir un modèle de développement plus ramassé, qui préserve l'environnement naturel et qui intègre la nature à l'intérieur du périmètre urbain, évidemment en montant plus haut, en utilisant mieux le foncier disponible? Bon, je ne vais pas entrer dans ce détail-là. C'est ce modèle de développement urbain que nous essayons de promouvoir et de passer de l'existant à ce qui me paraît être plus soutenable et plus durable. Voilà, chère Bettina, les quelques réflexions un peu en vrac, et je m'en excuse, que je souhaitais faire. Alors, je ne suis pas un observateur, mais je suis intéressé par les observations. Parce que je pense que l'action doit se nourrir de la réflexion, donc des think tanks, des observatoires comme celui que vous avez, présidez. Mais les deux sont complémentaires. On ne peut pas rester simplement dans l'observation si elle ne débouche pas sur l'action. Et si l'action n'est pas, je dirais, précédée, éclairée par des réflexions de gens qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, eh bien l'action est chaotique ou risque d'être chaotique et donc sans résultat tangible pour l'avenir. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci, merci beaucoup Roland. Vous avez quand même tous constaté que l'observateur qui est Peter est un observateur citoyen engagé. Hein, je veux dire, manifestement, il ne fait pas qu'observer dans sa vie européenne. Écoutez, il est temps de conclure. Moi, je crois que beaucoup de choses extrêmement riches ont été dites et je ne veux pas en rajouter. J'aurais juste peut-être quatre réflexions pour revenir sur le départ du sujet, c'est-à-dire la citoyenneté écologique. Vous avez en fait, c'est notre deuxième colloque sur le sujet. Nous avons eu un premier colloque, je disais ce matin, dans l'ambiance Notre-Dame-des-Landes au niveau français. Nous avons eu un deuxième colloque européen. Alors, je ne vais pas vous dire que nous aurons un troisième colloque mondial sur le plan de la citoyenneté mondiale, tout simplement parce qu'une fois que j'aurai présenté le troisième colloque au niveau mondial, je serai assez embêté pour vous en présenter un quatrième niveau, si vous voulez. Donc, je pense que nous allons réfléchir pour savoir comment, parce que là, nous allons continuer de tirer le fil de cette citoyenneté écologique. En fait, moi, j'aurais une envie, mais en principe, il faut que je fasse valider ça par mon conseil d'administration. Mais comme mon conseil d'administration, d'une part, me connaît et que d'autre part, m'aime bien encore, j'aurais très envie de proposer pour notre prochain forum un forum sur l'ODD 17. Qu'est-ce que ce fameux ODD 17 ? Et c'est une réflexion que nous menons avec le Conseil économique et social européen, avec vous-même, avec l'OCDE. Et je pense que là, il serait peut-être temps, effectivement, de creuser cet ODD qu'on invoque toujours, mais qu'on n'approfondit jamais, finalement, hein, parce que c'est l'ODD des citoyens, c'est l'ODD des partenariats, etc. Mais cela vaudrait peut-être le coup, d'autant plus que nous serons en 2020 et qu'en 2020 aura lieu la première revue des objectifs de développement durable. Moi, ce que j'ai retenu quand même comme deux, trois grandes idées, c'est d'abord que la citoyenneté déclarative, c'est fini. Et ça ne sert plus à rien. Alors, on a bien entendu l'ancienne ministre belge regretter que le climat n'ait pas été, voté par le Parlement dans la Constitution. Mais je pensais en l'écoutant qu'il y a des pays qui ne font pas grand-chose sur l'environnement et qui ont le climat, l'environnement, la biodiversité dans leur constitution. Je crois même que c'est le Brésil, pour tout vous dire. Donc on ne peut pas dire que c'est forcément, une marque d'action. En revanche, la citoyenneté active, alors ça, je crois que vraiment le temps de l'action, on l'a beaucoup dit, et la citoyenneté active est arrivée, et je retiendrai les deux questions qui ont été posées ce matin en fin de matinée. Certes, c'est le temps de l'action, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour l'action ? Mais en fait, quand vous prenez un peu de recul, cette question n'a pas grand sens, parce que même s'il est un peu tard pour l'action, c'est pas parce qu'il est un peu tard qu'on ne va pas agir. Donc, de toute façon, cette question mérite simplement qu'on se dise qu'il faut agir un peu autrement, peut-être, et plus vite, au vu de l'urgence. Ce que j'ai retenu en particulier de votre dernière intervention, et nous au comité 21 nous en sommes très contents parce que et d'ailleurs je vais vous mettre à contribution, nous sortons à la fin de l'année un rapport sur ce que nous appelons avec un peu de vanité la grande transformation, justement parce que nous pensons que la transition maintenant est insuffisante. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre intervention, en ce temps où on a l'impression que les finances durables vont tout régler, eh bien, j'ai retenu aussi que les finances, la recherche de crédit ne résolvait pas tout. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on oublie parfois et qu'on est en train de calquer le nouveau modèle et que même les meilleurs, même ceux qui sont les plus engagés, en fait, dans la construction de ce nouveau modèle, pensent que de l'argent pour le nouveau modèle suffira à le faire, suffira à l'accomplir. C'est indispensable, c'est évident, mais ça ne suffit pas et je crois qu'il faut aussi un nouvel état d'esprit. Voilà ce que je voulais un peu dire pour conclure, en vous remerciant tous les deux, mais en remerciant aussi tous les intervenants. J'ai aussi à vous dire que les actes du premier colloque sont sur le site du développement du comité 21, donc vous pouvez parfaitement les télécharger, voilà, ça se présente comme ça, vous voyez rien, mais ça fait rien, vous avez une sorte d'aperçu, et que nous avons aussi des prochains rendez-vous. Alors, des prochains rendez-vous, je les découvre, moi, parce que Dieu merci, je participe pas à tout. L'atelier, nous avons un atelier le 17 mai qui est sur le programme Adaptation au changement climatique. Ça, c'est un de nos programmes importants. Le 21 mai, nous avons un débat sur les gouvernances dans la loi d'orientation des mobilités. Vous savez qu'en France, on a une nouvelle loi d'orientation sur les mobilités. Et on a mis deux points vers un partage des responsabilités. Alors c'est formidable parce que je peux vous dire qu'il n'y en a pas assez justement dans la loi de partage de responsabilités. Ça prouve à nous notre optimisme. Et en fait, nous avons aussi le 22 mai un atelier sur associer les parties prenantes pour définir la raison d'être de mon entreprise. Si je conclue comme ça, c'est parce que ma directrice me l'a demandé et vous comprendrez tous que je remercie non seulement tous les intervenants et les financeurs, mais aussi ma formidable équipe qui a monté ce colloque autour de Sarah. Merci à tous. Merci.